RFI. Le Monde à midi.
La situation s'affiche en une de tous les grands journaux aux États-Unis. De plus en plus de grandes universités sont confrontées à des blocages de la part de manifestants, des partisans de la cause palestinienne. Eux défendent leur liberté d'expression. Mais la droite les accuse d'antisémitisme. Pour en parler, nous recevons Vincent Michelot, professeur de civilisation américaine à Sciences Po Lyon et vice-président chargé des relations internationales de l'ENS de Lyon. Bonjour.
Bonjour.
Des étudiants ont été évacués à New York la nuit dernière. De l'autre côté du pays, d'autres étudiants se sont barricadés à la California State Polytechnic University. On voit ce type de mouvement s'étendre dans plusieurs universités du pays. Avant de parler des enjeux politiques, je voulais vous demander pourquoi les universités étaient aussi centrales. Pourquoi est-ce qu'elles sont choisies comme lieu de mobilisation ?
Parce que c'est là que le problème se pose dans les termes très très concrets, parce que traditionnellement les universités américaines ont été le lieu de toutes les protestations contre les grands événements géopolitiques, qu'il s'agisse de la guerre du Vietnam, qu'il s'agisse de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud dans les années 1980. À tout moment, les universités américaines sont des foyers d'expression sur les grandes questions contemporaines.
Alors, certaines universités ont pris des mesures face à l'ampleur de la mobilisation. Harvard, par exemple, est fermée au public depuis une semaine. Columbia a décidé de proposer ses cours à distance à partir d'aujourd'hui. Pourquoi est-ce que des mesures aussi radicales sont-elles prises de la part des directeurs d'université ?
Parce que d'un côté, la violence est réelle. Il y a des propos qui sont tenus qui glorifient l'intifada, qui appellent à l'annihilation de l'État d'Israël, à l'amplification des attaques contre Israël. Et donc ce sont des propos qui ne peuvent pas être tenus sans qu'il y ait une menace physique qui pèse sur tous les étudiants et en particulier sur les étudiants juifs, et que d'autre part il y a un trouble réel à l'ordre public, et en même temps les présidents d'université se doivent de faire respecter la liberté d'expression, et on sait combien la ligne est ténue, fine, entre d'un côté la violence et l'appel à la haine et l'appel au meurtre d'une certaine façon, et de l'autre côté la liberté d'expression. C'est un débat qui en plus se pose dans des termes assez différents en France et aux États-Unis.
Oui, c'est ça, parce que vous nous disiez qu'il y avait des propos qui pouvaient tomber, je pense, sous le coup de la loi, qui sont tenus par certains partisans de la cause palestinienne, mais la réalité est aussi assez nuancée, en tout cas plus que ce qu'on peut l'entendre dans certains discours politiques. Il y a aussi des étudiants juifs au milieu de ces mobilisations. On peut le lire encore dans le New York Times aujourd'hui. À partir de quel moment on tombe dans l'instrumentalisation politique dans cette période de campagne électorale aux États-Unis ?
De toute façon, cette situation dure depuis fort longtemps, depuis en fait le 7 octobre, et ça n'a rien de nouveau. Rien de nouveau au fait que cela se place au milieu d'une campagne électorale qui a largement débuté. On est maintenant sur des positions qui sont tellement radicales et tellement violentes que le débat n'est plus possible, et que on a d'un côté des manifestants qui bloquent les campus, dont les présidents demandent l'évacuation à la police, et de l'autre côté, effectivement, cette idée que les universités doivent être un lieu sacré où la liberté d'expression a toujours titre et doit être respectée de manière scrupuleuse, et c'est un dilemme totalement impossible pour les présidents d'université qui sont pris pour cible, notamment par Elie Stefanik à la commission sur l'éducation de la Chambre des représentants.
Oui, je voulais vous en parler. Ce débat, cette situation intervient dans un contexte qui est assez particulier d'audition parlementaire à la Chambre des représentants, menée donc par cette élue très conservatrice que vous évoquiez à l'instant.
Oui, absolument. Et cette élue conservatrice, elle a déjà obtenu la tête de deux présidentes d'université dès à la fin de l'année 23 et au début de cette année 2024. Elle a obtenu la démission de Claudine Gay, la présidente de Harvard. Elle a obtenu la démission d'Elizabeth McGill de Penn à Philadelphie en décembre 2023. En quelque sorte, c'est une forme de chasse aux sorcières dans laquelle l'université américaine, et en particulier ces très grandes universités de la côte Est que l'on met dans la catégorie de la Ivy League, à la Ligue du Lierre, seraient en quelque sorte des bastions de l'islamo-gauchisme, comme on a pu l'entendre à certains moments en France.
Merci beaucoup Vincent Michelot d'avoir été en ligne avec nous. Je rappelle que vous êtes professeur de civilisation américaine à Sciences Po à Lyon et vice-président chargé des relations internationales de l'ENS de Lyon également. Merci.